Nouvelle suite dans les idées en forme de conférence de presse depuis les jardins de Mons à Avignon. On va commencer aujourd'hui par parler de Visage de Feu, un spectacle d'Oskaras Korsunovas, metteur en scène lituanien, qui a monté donc Visage de Feu, une pièce de Marius von Mayenburg, qui a récemment été montée à Paris par Alain Françon au Théâtre de la Colline, et qui avait été montée par Thomas Ostermeyer également. Oskaras Korsunovas est donc né à Vilnius en 69. Il revient à Avignon après avoir, l'année dernière, créé le Maître et Marguerite d'après Bulgakov, dans le cadre de Théorème, et c'est toujours dans le cadre de Théorème, donc ce programme de rencontre entre le théâtre des pays de l'Est et le théâtre des pays occidentaux, qu'il a conçu ce nouveau spectacle. La particularité peut-être du travail de Oskaras Korsunovas, c'est de s'intéresser notamment aux auteurs contemporains. Il a travaillé sur des textes de Bernard-Marie Coltès ou de Mark Ravenhill. Il travaille actuellement sur un texte de Sarah Kane, par exemple. Et donc là, il a choisi de monter ce jeune auteur allemand qui est né en 72. Pourquoi ce choix? Ce sera ma première question à Korsunovas.
Значит, первый вопрос, он рассказывал о жизни, о работе, и вот ты ставил много современных авторов молодых, и вот почему выбор этого молодого автора фон Майнбург сейчас?
Майнбург, да? Угу. Ну, во-первых, я думаю, что для меня это просто была это очень интересная пьеса.
Je pense que d'abord pour moi c'était une pièce très intéressante.
Просто как он уже и говорил, наш театр ставит много новой драматургии.
Donc comme vous l'avez dit, notre compagnie montre beaucoup de jeunes auteurs.
Мне кажется очень важно, как бы это достаточно последовательно появился Майнбург в нашем репертуаре.
Et donc, c'était l'arrivée de von Mayenburg dans notre répertoire était assez logique par rapport à ce qu'on a fait auparavant.
Для меня, что одно было из самых интересных моментов в этой пьесе, это то, что фактически действие происходит в семье.
La chose la plus importante pour moi dans cette pièce, certainement, c'est que l'action se passe dans une famille.
Мне кажется, что весь как бы такой экзистенциальный ужас, который есть в этой пьесе, он именно в том, что то, что происходит, может произойти в семье.
Et l'horreur existentielle, si on peut dire, qui est dans cette pièce, réside dans le fait que ce qui s'y passe peut se passer dans une famille, justement.
То есть семья всегда нам ассоциируется с неким моментом, где мы как бы отделены от ужасов, от ненависти, от всего, где есть то, где мы можем наиболее одни других понять, любить.
En principe, l'idée de la famille est associée justement à ce qui s'oppose aux horreurs, à la haine, et est un lieu où on est supposé pouvoir se comprendre et s'aimer.
Et вот когда в семье появляется этот момент абсолютного непонимания один другого.
Et quand dans une famille donc apparaît ce moment d'une incompréhension absolue de l'autre.
Начинается ненависть и фактически начинается настоящая война.
Donc la haine apparaît et presque une guerre, tout simplement.
Да, это по-настоящему ужасно.
Et c'est réellement horrible.
Потому что, значит, уже нету ничего, никакого больше, никакой возможности, такого места, где мы были бы за пределом ужаса.
Parce qu'il n'y a plus aucun endroit où on pourrait être protégé de l'horreur.
Тема очень интересная эта пièce.
C'est un thème très intéressant, le thème de cette pièce.
И тема она актуальна.
Et actuelle.
Еще она, конечно, очень хорошо написана.
Et en plus, elle est très bien écrite.
Майнбург очень чувствует какую-то драматургическую композицию.
Von Mayenburg a un grand sens de la composition dramatique.
Это не так часто теперь и не так часто бывает, читая или видя новую драматургию.
Et c'est pas si fréquent actuellement quand on lit de nouveaux auteurs.
У него в пьесе все говорят сами ситуации. Нету никакой литературы, нету, говорят не какие-то слова, а сами ситуации создают смысл.
Le sens est créé à partir de la situation elle-même. Dans la pièce, il n'y a pas de littérature, proprement dit.
Vous avez travaillé avec Marius von Mayenburg, vous avez dialogué à propos de son texte ou vous avez juste travaillé à partir du texte?
Ты работал именно с автором фон Майнбургом? Вы говорили о работе, о тексте, или просто сам ты от текста работал?
Да, мы говорили. Майнбург перед началом работы приезжал в Вильнюс.
Oui, on a parlé avant le travail. Von Mayenburg est venu à Vilnius.
И мы немало говорили, и он также говорил с актерами.
Et on a beaucoup parlé. Il a parlé aussi avec les acteurs.
Да, и может даже не были некоторые моменты, с которыми он не хотел согласиться.
On y хотел?
Согласиться. Как
мы думали. Et il y a eu des moments où il voulait pas, il était pas d'accord.
С некоторыми трактованиями некоторых персонажей, как мы думали, допустим, о родителях.
En particulier sur le traitement de certains personnages, comme les parents, par exemple.
Но это была очень интересная встреча. Mais и очень помогла в дальнейшей работе.
Mais c'était une rencontre très intéressante qui a beaucoup aidé pour le travail ensuite.
А потом мы второй раз встретились уже на фестивале в Германии, и он видел спектакль, и ему очень этот спектакль понравился.
Et ensuite nous nous sommes rencontrés une seconde fois en Allemagne au moment du festival et le spectacle lui a beaucoup plu.
Vous avez dit dans de récents entretiens que après avoir dans vos premières mises en scène essayé de trouver votre style, de mettre en avant des traits propres à votre travail, vous avez tendance maintenant à mettre en avant les textes et à vous focaliser sur les textes. Est-ce que c'est le cas avec Visage de Feu?
Ты недавно сказал в разных интервью, что в начале своей работы ты старался немножко найти и создать свой стиль, а сейчас более сосредотачиваешься на тексты, на работу с текстами. Вот, и ты бы мог сказать, что это случай такой с этой пьесой, что...
Да, в начале работы мне самое главное это было вообще анализ какого-то театрального языка.
Oui, au début de mon travail, ce qui m'importait, c'était une forme d'analyse du travail théâtral.
Теперь мне очень интересно вообще более, наверное, важна драматургия, феномен драматургии вообще, как некий такой ну, некий совсем другой момент возможности говорить о каких-то вещах.
Больно,
жизни,
ты
да.
сказал? Больно?
Не-не-не-не. Это некий другой
понял.
Момент.
Maintenant, effectivement, donc c'est un autre moment où je m'intéresse beaucoup à l'écriture, donc, et comme à un autre moyen de dire certaines choses.
Но все равно, допустим, с каждым спектаклем мне очень важно создать то, что что специфично только именно этому спектаклю, именно этой драматургии, что исходит именно из этой драматургии, которую берем.
Et pour chaque spectacle, en fait, il est très important pour moi de trouver ce qui est spécifique à ce texte, à ce spectacle, et ce qui vient directement du texte en question.
Это значит, что есть как бы такое сверхзадание с каждым спектаклем создать какой-то некий новый театр, новые возможности театральной коммуникации.
Et donc c'est comme une tâche supplémentaire pour chaque spectacle d'essayer de trouver de nouvelles possibilités pour le théâtre, comme presque un nouveau théâtre pour chaque spectacle.
Так что для меня каждая для меня вообще-то пьеса и драматургия тогда становится интересна, когда она дает возможность анализировать вообще театральный язык.
Et donc pour moi une pièce est intéressante quand elle, en général, quand elle donne la possibilité d'analyser le langage du théâtre.
Мне кажется, что именно драматургия Майнбурга дала возможность очень интересно экспериментировать с понятием времени.
Et en particulier donc la pièce de von Mayenburg, il me semble qu'elle a donné la possibilité de expérimenter le concept, la notion du temps dans le théâtre.
В этом спектакле есть очень такой своеобразный монтаж.
Dans ce spectacle, il y a un montage qui est très spécifique, très propre à
la pièce. Монтаж, который фактически происходит в воображении зрителя.
Et c'est un montage qui en fait se produit dans l'imagination du spectateur. Et cette possibilité a été donnée justement par l'écriture de von Mayenburg. C'est donc une forme de montage presque, on peut dire, cinématographique.
Фактически каждая ситуация в пьесе очень лаконична есть, и каждая ситуация имеет какую-то свою кульминацию.
Parce que en fait le langage et les situations dans la pièce sont très laconiques, on peut dire, et chaque moment a son point culminant.
И это нету как в других пьесах, чтобы действие развивалось понемногу и потом имело какие-то свои кульминации, то есть актер в каждом моменте должен быть очень предельно точен и активен.
Et c'est pas comme dans beaucoup d'autres pièces dans lesquelles l'action se développe peu à peu pour arriver à un point culminant à la fin. Ici, à chaque moment, les acteurs donc sont obligés d'être très 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 précis et très touch. Они должны быть точны и
очень очень точно, да. Uh-huh. И то есть сама структура уже этой пьесы дает возможность искать новых выражений.
La structure elle-même de la pièce donne la possibilité de trouver de nouvelles formes d'expression.
Depuis que vous avez créé votre compagnie, en deux ans, vous avez créé une dizaine de mises en scène, ce qui peut évidemment paraître beaucoup. Est-ce que ce sont les contraintes économiques qui vous obligent à monter autant de spectacles ou est-ce que c'est un choix et vous avez besoin de travailler vite sur ces textes et sur ces mises en scène?
С тех пор, как создал свою труппу, ставил около 10 спектаклей, это может казаться много, но значит это экономические причины заставляют так ставить так много спектаклей, или это сам считаешь нужно работать для себя,
Это и так есть, но вообще-то есть очень много разных идей, желаний. Не хватает просто времени. Мы теперь работаем в одно время, делаем по два спектакля. Я работаю фактически на нескольких материалах. И самая большая, наверное, проблема в том, что не хватает времени.
C'est un peu les deux, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de choses, beaucoup d'idées, beaucoup de désirs, et que je manque de temps. Il n'y a pas assez de temps en fait, et que voilà, il y a beaucoup de choses que je voudrais faire, mais en général, il n'y a pas assez, on n'a pas assez de temps.
En fait, vous avez mis en scène votre premier spectacle quelques jours à peine après la déclaration d'indépendance de la Lituanie. De ce point de vue-là, vous êtes un peu emblématique de ce nouveau théâtre auquel on aurait affaire aujourd'hui depuis la chute du mur et les événements qui ont découlé dans tous les autres pays. Est-ce que pour vous, les choses ont radicalement changé et comment la situation a évolué entre ce moment où vous mettiez en scène ce spectacle, 11 jours donc après la déclaration d'indépendance à Vilnius, et puis aujourd'hui, une dizaine d'années plus tard, où vous avez vu les choses se mettre en place progressivement?
Значит, ты ставил свой первый спектакль сразу после объявления самостоятельности Литвы, да, и как, ну, это можно считать как символ, да, того театра, который можно делать вот после этого, ну, после тоже падения стены и так далее, да. И 10 лет спустя, как ты считаешь, что можно сказать об эволюции, которая была, и что сейчас по сравнению с этим, в связи с событиями?
Имеется в виду вообще в обществе или в театре нашем или...
Donc, en ce qui concerne la société ou
Dans
dans le rapport au
théâtre, dans le
théâtre?
rapport au théâtre, la place du théâtre.
Ну, в театре, в отношении театра.
Ну, вообще-то, много что меняется, конечно, наверное, самое важное это то, что открылась большая возможность ездить по разным фестивалям, сотрудничать. Вот, допустим, и проект «Теоремы» тоже очень для меня важный, потому что это дает какую-то творческую возможность, и это открывает шире, значит, вообще некую, значит, понимание театра даже самого, потому что мы теперь точно не езд закрыты, мы много ездим, много видим, много кто приезжает тоже в Литву. И это, наверное, самое главное из того, что поменялось в театре.
Beaucoup de choses ont changé, évidemment. Ce qui est important pour maintenant, certainement, c'est le fait de pouvoir tant voyager, participer à des festivals étrangers, collaborer, comme au projet Théorème, par exemple, et ça donne de nouvelles possibilités aussi pour la création et une autre manière de travailler le théâtre, carrément, toutes ces travaux en commun avec.
Конечно, еще надо сказать, что все очень активно меняется. Допустим, наше общество очень активно живет эти последние 10 лет.
Dans notre société, tout change très vite. Les changements sont très, très actifs. Toutes ces 10 dernières années, ça s'est passé vite.
И меняются также и какие-то и темы, и может даже несколько лет тому назад было трудно представить, что будет именно такие драматургии интересные, именно такие темы. Очень все быстро меняется, все-таки очень теперь жизнь очень динамичная, и театр тоже должен быть очень динамичный.
Et il y a quelques années, il était très difficile de s'imaginer qu'il pourrait y avoir une telle écriture de théâtre actuellement, de tels thèmes traités au théâtre. Donc tout change très vite. La vie, la société est très dynamique, et donc il faut que le théâtre le soit aussi.
Et du point de vue des conditions économiques du travail pour un metteur en scène, est-ce que la situation a évolué? Est-ce que le public va plus ou moins voir les spectacles?
А что касается экономической ситуации в театре для режиссера, это изменение было тоже? Публика ходит больше, или менее в театр?
публика достаточно ходит в театр. Допустим, у нас был очень хороший сезон, мы очень много в прошлом году гастролировали по всей Литве и очень много имели зрителей.
Le public va au théâtre en assez grand nombre. La saison dernière s'est très bien passée. On a beaucoup fait de tournées en Lituanie et il y a eu beaucoup de public. On a vu.
Вот. И может нету такого, ведь когда-то до 90-х лет театр был очень важной моральной институцией.
Dans les années 90, le théâtre était une institution morale importante.
Вот. Теперь, наверное, уже этого нету.
Et certainement, actuellement, c'est plus le cas.
Хотя мы стараемся именно, чтобы это было так.
Bien que nous essayons de faire que ce soit malgré tout encore comme ça.
Моральная институция в 90-х годах, да?
Oscaras Korsunovas, merci. Donc, Visage de Feu, c'est du 14 au 18 juillet, salle Benoît XII, à 19h. On peut aussi préciser que, assez largement, le public français pourra voir dans bon nombre de villes, je ne les cite pas tous, votre mise en scène du Songe d'une nuit d'été dans le courant de l'année 2002, entre le mois de mars et le mois de février.
Merci.
On poursuit avec les programmes de la SACD. Depuis quelques jours, on parle donc de ce que propose la SACD à travers mots d'auteur, textes nus et aujourd'hui Félag. Vous venez lire un texte inédit écrit pour cette manifestation qui est Bella la Vita. Alors Félag, on vous connaît en France surtout pour vos spectacles de one-man show, comme on dit. Mais avant de faire ce type de spectacle, vous avez mené une longue carrière de comédien de théâtre en Algérie, notamment. Enfin, vous avez beaucoup voyagé, puis vous êtes installé en France depuis 1995. Ce qu'on savait peut-être moins, c'est que vous écriviez depuis toujours, en fait. Vous avez fait paraître cette année un roman, votre premier roman.
Oui, c'est mon premier roman. Je crois que le désir d'écriture chez moi a précédé le désir d'être acteur, donc tout petit. Et plus tard, quand je suis devenu comédien, j'ai vécu de très longues années de frustration. C'est l'acteur qui cachait l'auteur. Donc d'abord, je n'avais pas le temps d'écrire, je n'avais pas l'expérience, je n'avais pas confiance en moi. Et les conditions aussi à l'époque, dans les années 70, du théâtre en Algérie, on était sur une urgence d'écriture politique tout de suite. Et moi, je n'avais pas du tout la formation à ce moment-là. J'étais complètement apolitisé, apolitique. Et plus tard, quand j'ai eu un peu plus confiance en moi, j'ai joint l'utile à l'agréable. J'ai écrit des petits textes et j'ai utilisé le comédien Félag comme cobaye de l'écrivain, de l'auteur. Félag, qui était très très timide, hein, auteur timide, mais ça, au bout du deuxième spectacle, au bout de la deuxième écriture, j'ai eu du goût à ça, et ça fait maintenant 13 ans que je m'écris des textes. J'en suis au septième monologue, très proche du théâtre que du one-man show. J'ai été metteur en scène aussi, donc j'ai dirigé un théâtre en Algérie. Et maintenant que j'ai vraiment une confiance au niveau de l'écriture, j'ai acquis une maîtrise pour saisir des émotions, les exprimer par l'écrit. J'ai écrit donc ce premier roman qui s'appelle Rue des Petites Dorades, qui est paru il y a 3 mois
chez
La Thèse. L'an dernier, à la demande du TILF, le Théâtre International de Langue Française, sous la direction de Gabriel Garand, avec Émile Herlich, qui était l'assistant, le conseiller de Gabriel. Il m'avait demandé si je n'avais pas des petits textes que je pouvais lire dans le cadre d'une opération sur l'Algérie qui durait un mois. Et j'ai ramassé tous les petits bouts de textes que j'avais dans des petits cahiers. Je les ai retravaillés pendant un mois et demi. Ça a donné quelque chose de très très joli, que des acteurs, Chantal Trichet, Hugues Massignat qui est là, avaient lu. Et ça a tellement plu. On a refait une deuxième représentation la semaine d'après. Et donc, ça m'a donné tout d'un coup des ailes, une envie d'écriture vorace, presque, puisque l'été, j'avais écrit une quinzaine de nouvelles, plus le roman, en 3 mois. Et là, ces nouvelles, ces contes, et ces récits que j'ai appelés Che bella la vita, par opposition à la tragédie algérienne, c'est-à-dire que nous, on fait du théâtre, on fait on cherche des solutions dans les mots pour donner un peu de bonheur aux gens, même quand ils vivent dans le drame. Donc, je l'ai appelé Che bella la vita parce qu'il faut continuer à résister par les mots, par les émotions. Et Hugues Massina, d'ailleurs, va les mettre en scène au TILF l'année prochaine. Au départ, j'avais annoncé dans une interview que je faisais en fait j'ai écrit un texte d'1 heure sur la schizophrénie d'un écrivain qui se passe aux États-Unis, qui n'a rien à voir avec l'Algérie. C'est un très beau texte dramaturgique. Et puis, comme vous le savez, avec ce qui se passe en ce moment en Algérie, le drame algérien a repris encore de nouveau, la machine s'est réemballée. Et donc, j'ai pris des textes écrits il y a 20 ans, il y a 12 ans, il y a 7 ans, qui sont des émotions, je dirais des émotions politiques dans lesquelles je mélange un peu c'est mon écriture qui est comme ça, c'est toujours un mélange de réel et de fantasmagorie, mais qui est toujours lié à des émotions, à une humiliation, etc.
C'est toujours des monologues. Vous avez jamais eu envie, alors vous êtes déjà passé au roman là, récemment, mais de passer à l'écriture d'une pièce avec différents personnages, c'est un
Il y a
projet.
beaucoup de théâtralité dans les textes littéraires que j'écris pour un seul personnage. Le texte, il y a 3 petits textes de 20 minutes que je vais lire ce soir. C'est très proche du cinéma, mais c'est en même temps très théâtral. C'est-à-dire qu'il y a des situations théâtrales qui ne sont pas écrites sous la forme techniquement théâtrale. Mais en même temps, j'ai un chantier aussi, en chantier, une pièce à 2 personnages. Un homme et une femme qui va être en principe terminé d'ici septembre-octobre et qui raconte un peu les relations entre hommes et femmes, toute la démarche cachée, inconnue, invisible que les hommes et les femmes se racontent, tous les mensonges que se racontent les hommes et les femmes dans le monde depuis toujours. Ça, c'est un couple qui vit à Alger, donc un couple moderne et tout ça, mais qui vivent ensemble. Et puis après, de plus en plus, il y a un drame qui va s'installer et dans lequel chaque personnage va ressortir toutes les choses cachées depuis des millénaires liées à l'homme et la femme, à l'homme et la femme, et qui deviennent tout d'un coup universelles. Donc, c'est déjà, je suis passé du monologue à 2 acteurs, et puis j'ai des idées pour monter des pièces à plusieurs personnages pour les années à venir, parce que j'ai vraiment envie d'écrire pour les autres aussi.
Pour poursuivre l'enquête qu'on a commencée en posant quelques questions à Jean-Michel Ribes le jour sur le statut de l'auteur, peut-être vous pouvez nous éclairer sur la situation de l'auteur dans le théâtre algérien où vous avez longtemps travaillé. Est-ce que de ce point de vue, les choses diffèrent de ce qu'on connaît en France, à savoir quand même une prédominance du metteur en scène du point de vue de la notoriété et puis un rôle, en tous les cas ressenti comme tel, assez difficile pour les auteurs?
En Algérie, je crois que la prédominance qu'il y a, c'est la prédominance de la frustration, plus que du metteur en scène sur les acteurs, des acteurs sur les auteurs. Il y a un grand problème. D'abord, nous avons hérité du schéma théâtral français, du schéma d'organisation théâtrale de France, puisque jusqu'en 62, on était français. Et Jean Vilar était très connu à Alger. C'était une grande vedette que les auteurs, les metteurs en scène, les acteurs vénéraient déjà à l'époque. Et moi, je dois dire, entre parenthèses, qu'aujourd'hui, c'est un très grand bonheur pour moi d'être là à lire des textes dans un endroit où l'auteur est vraiment porté de façon magnifique. Jean-Michel Ribes il m'avait proposé de faire ça. J'ai d'abord eu peur parce que c'est mes premières tentatives, c'est la première fois qu'on me voit en tant qu'auteur. Et là, c'est un très grand bonheur chaque soir. Là, c'est la troisième soirée ce soir. Mais hier, je ne parlerai pas de moi, mais hier, avant-hier, c'était 2 moments d'une émotion absolument rare. Il y a une qualité de théâtrale qui transparaît sur scène quand des acteurs disent magnifiquement un texte qui parfois ne se voit pas quand il est mis en scène parce que des fois il est dilué, le texte est dilué. Il y a une émotion rare qui se dégage. Je ferme la parenthèse pour dire qu'en Algérie, donc je parlais de frustration, on ne communique pas, c'est-à-dire que des acteurs, des metteurs en scène font exactement un peu comme le cinéma d'auteur français, c'est-à-dire que les metteurs en scène écrivent leur propre scénario. Nous, on a le théâtre d'auteur algérien, les metteurs en scène écrivent leur propre pièce, ou alors ils se mettent en contact avec un auteur qu'ils ne lâchent plus pendant des années et qui leur écrivent tout le temps, ils trouvent un chemin. Il y a beaucoup de gens qui écrivent, mais il y a beaucoup d'acteurs qui ne savent pas qu'il y a des auteurs qui écrivent. Il y a des auteurs qui ne connaissent pas les acteurs, qui ne connaissent pas les compagnies. Donc il y a des cloisonnements. D'autre part, ça fait pas très très longtemps que dans nos pays, on commence à écrire pour le théâtre. Il y a eu dans les années 30, 40, 20, 30, 40, 50 un énorme théâtre d'improvisation, c'est-à-dire très très proche un peu de l'époque de Molière, où des compagnies improvisaient des choses sur des thèmes, etc. Donc c'était un théâtre très populaire, très comique souvent, parce que c'est ça qui avait prise sur les gens. En 50, il y a eu la fulgurance de l'écriture de Katebiassine, qui a été montée d'ailleurs plusieurs fois par Jean-Marie Serrault ici en France, et qui en avait donné une lecture magnifique et courageuse à l'époque déjà. Plus tard, il y a eu des auteurs très solitaires qui ont écrit, Mouloud Mamri, Malek Haddad, des gens dans les années 50 et 60 qui écrivaient. N'écrivaient pas pour être joués. Ils écrivaient du théâtre pour exprimer quelque chose, mais ils ne destinaient pas ça aux acteurs. Donc il y a ce côté, quand on lit, on comprend que c'est pas fait pour être joué. En même temps, c'est du théâtre. Dans les années 70, il y a eu un formidable chantier on a copié hein, sur tout ce qui se passait dans le monde, c'est-à-dire les écritures collectives des années 60 et des années 70. Il y a eu des centaines de compagnies de théâtre amateur qui étaient très très bonnes et qui écrivaient elles-mêmes. Il y avait un chantier, moi-même je fais partie, je sors de là aussi. Quelques individualités se sont distinguées à ce moment-là, dans les années 70. Puis après, à partir de 77, il y a eu une fermeture de l'Algérie sur elle-même. Une fermeture totale, c'est-à-dire qu'on ne recevait rien de l'extérieur, ni livres, ni films, ni pièces de théâtre. Les compagnies étrangères ne venaient plus. On était coupé de la recherche et de l'énergie théâtrale qui se passait dans le monde, d'autant plus que les années 60-70 étaient très très riches en recherche. Et donc automatiquement, le théâtre aussi, l'écriture théâtrale s'est appauvrie, la forme théâtrale s'est énormément appauvrie, et l'écriture aussi, dans la forme et dans le fond, s'est complètement rétractée comme une peau de chagrin. Il y a eu un retour après les années 86-87, avec les événements de 88, un nouveau souffle, et aujourd'hui je crois qu'il y a des gens qui sont très très bien. Il y a quelqu'un que moi j'adore, que j'aime beaucoup, pour qui j'ai vraiment une très très grande admiration, c'est Aziz Chouaki, qui a une magnifique écriture.
Dont je crois les oranges est monté dans le off.
Les Oranges, El Maestro, qui s'est joué d'ailleurs au TILF et qui a eu un magnifique succès avec un très très grand comédien qui s'appelle Mousse. C'est un garçon dont on entendra parler dans quelques années parce qu'il a une force extraordinaire.
C'est là que peut-être pour terminer, est-ce que ces auteurs de théâtre dont vous parliez tout à l'heure, auteurs metteurs en scène, s'emparent dans leur travail de la situation politique actuelle ou de la société algérienne plus généralement, ou est-ce que ils essayent de se tenir un peu à l'écart de ça en essayant de résister par d'autres moyens?
Non, je crois que viscéralement, on est tous, hein, on est tous liés aux problèmes qui se passent en Algérie. Et nous écrivons tous, quelle que soit la forme qu'on utilise, quelle que soit la parabole, on vient toujours de ça, on revient toujours à ça. Ce soir, dans les textes que je vais lire, les trois textes racontent trois émotions qui précèdent la tragédie algérienne et qui expliquent le pourquoi de ce qui se passe aujourd'hui. C'est des émotions que j'ai ressenties à un moment donné de l'histoire de l'Algérie, qui est liée à un abus de pouvoir ou à une humiliation terrible. Cette émotion-là, je l'ai grossie de façon théâtrale pour pouvoir y mettre toute ma rage, toute ma révolte. Et c'est lié à ça, même s'il y a des moments comme ça qui partent sur du surréalisme, mais c'est toujours lié au drame. Et tous les auteurs algériens, que ce soit Mohamed Kassimi, quand il parle de 1962, qui est un très grand auteur aussi, que j'aime beaucoup, c'est aussi lié à la frustration de l'indépendance, d'une vraie indépendance, d'une indépendance qui aurait donné vraiment l'indépendance. C'est quelque part tout cela que nous racontons dans tout ce que nous écrivons, tous comme on est. Voilà.
Félag, merci.
Merci.
On poursuit un peu ce tour d'horizon de la situation de l'auteur, puisque l'occasion nous en est donnée avec Olivier Chiacchiari qui vient aussi dans le cadre d'une manifestation de la SACD lire un texte, nous le sommes tous. Vous travaillez en Suisse, vous êtes né à Genève en 69, et vous avez déjà écrit 11 pièces de théâtre.
Voilà, déjà, oui, à 32 ans. Mais oui, ouais. Je travaille en Suisse romande, donc essentiellement à Genève. Enfin, ça me faisait plaisir d'entendre Felag parler aussi de l'Algérie, puisque moi, c'est le contraire, puisqu'en Suisse romande, on ne meurt pas de violence, de censure, mais plutôt d'ennui et de calme. Et c'est contre ça que je me bats. Et géographiquement, donc on a un gros problème qui est qu'on est en fait pris entre la Suisse alémanique. Donc il y a le problème de la langue où il faut être traduit pour pouvoir être joué. Et eux ont des ponts, par contre, avec les Allemands, c'est relativement facile de passer de Zurich à Berlin. Et avec la très difficile barrière française, mais qui en fait est plutôt le parisianisme. Donc on vit un peu la situation d'une petite ville de France. Donc c'est très très difficile de faire circuler son théâtre. C'est pour ça aussi que je suis très heureux, comme Felag, enfin, de me retrouver ici aujourd'hui et puis de donner à entendre mes mots.
Comment vous en êtes venu à l'écriture dramatique? Parce que Felag nous disait, ce qui comptait pour lui, c'est l'écriture. Finalement, la forme dramatique s'est imposée du fait de sa carrière de comédien. Mais aujourd'hui, on voit beaucoup de gens devenir romanciers, avoir envie d'écrire le roman, et de ce point de vue-là, vraiment la forme qui semble séduire le plus de candidats à l'écriture.
Alors c'est une question qui revient souvent. En fait, moi, elle est extrêmement simple, là aussi. Ben, c'est le cursus inverse de Felag. Je voulais jouer, je voulais être comédien, j'ai dû cesser pour cause de trac extrêmement violent. C'est-à-dire qu'à la 30e représentation, j'avais aussi peur qu'à la première. Donc même mes amis m'ont fait comprendre qu'il valait peut-être mieux passer à autre chose. Et j'étais passionné de théâtre, et je pense que l'apprentissage du jeu m'a donné le goût de la réplique et de cette écriture-là, et vraiment qui est très particulière. Et c'est pour ça que bon, moi j'ai une langue très, très directe, très franche. Enfin, je suis le contraire d'un poète. Enfin, je me situerais plutôt du côté des satiristes, ou enfin, j'écris des farces. Enfin, je serais plutôt, pour schématiser, c'est plus Molière que Shakespeare.
Et nous le sommes tous, ce texte que vous lisez ici, c'est...
Alors c'est un texte, c'est une pièce à sketch, c'est assez amusant, parce que c'est un peu la pièce qui m'a fait connaître. Disons, c'est un texte qui est composé par 7 sketchs, qui sont des variations sur un seul et même thème, qui seraient, quand on simplifie, on dit lâcheté ou la veulerie. Moi je préfère dire les reniements ou les convictions successives qu'on peut avoir. Et là je vais donner 5 extraits, en fait je vais découper, parce que je pense que le texte dans son intégralité fait 1h20-25, et c'est vrai que pour mon confort de lecteur, puisque moi j'ai pas la chance justement d'être comédien, et je ne veux plus être comédien, pour mon confort et le confort du public, je pense que 1 heure c'est vraiment bien. Donc j'essaye vraiment de concocter 5 séquences assez fortes qui devraient révéler le caractère de mon écriture.
Olivier Chiacchiari, merci. Embouteillage, conception et mise en scène à Anne-Laure Liégeois. On a affaire, dites-vous, et c'est le sous-titre de votre spectacle, un spectacle de route et non un spectacle de rue. Vous pouvez nous expliquer?
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je ne sais plus trop actuellement si c'est un spectacle de route, un spectacle de rue, je ne sais plus. Parce qu'en fait, c'est un spectacle avec des textes, c'est commencé par une commande à 25 auteurs, donc avec une écriture très précise pour une proximité très grande avec les spectateurs, puisque ça se passe à l'intérieur des voitures, et qu'à un moment, il m'a semblé que cette écriture et la rue étaient quelque chose qui n'était pas forcément évidente. Donc je me suis dit, en fait, c'est un spectacle de route, puisque le thème de la pièce est le temps, et le temps qu'on décide un jour de... Enfin, on décide pas un jour. Un jour, on part sur la route de la vie, on suit son chemin. Donc voilà, c'est pour ça qu'il était question d'une route, et non plus de rue. Mais là, on vient de jouer à Alès, et d'un seul coup, j'ai l'impression que c'est aussi un spectacle de rue, puisqu'on l'a joué dans la rue, et ça s'est passé de façon formidable avec les spectateurs qui étaient des spectateurs de rue et qui sont devenus des spectateurs de salle l'espace des 10 minutes à l'intérieur de la voiture.
Donc, pour bien comprendre, peut-être vous pouvez nous expliquer le dispositif. Ça s'appelle embouteillage, et donc en fait, vous avez conçu un certain nombre de voitures dans lesquelles prennent place des comédiens et des spectateurs.
Oui, prennent place les spectateurs, puisque les comédiens sont déjà là, c'est leur véhicule, c'est-à-dire que depuis très très longtemps, depuis une éternité, ces gens-là attendent, sont coincés dans un embouteillage éternel. Alors en fait, le spectacle, enfin le projet est parti d'une commande, donc à 25 auteurs. J'ai commencé par écrire à une trentaine d'auteurs, et puis 25 ont répondu présents juste sur le mot embouteillage. Et ensuite, il y avait toute une série de consignes pour l'intérieur de ces voitures, des contraintes de temps, des contraintes de nombre de personnages, et puis de thèmes et de situations. Donc voilà. Ensuite, le principe du spectacle, c'est effectivement, ça marche à coups de claquement de portière, c'est-à-dire que les spectateurs, selon un parcours qu'ils se définissent eux-mêmes, en fait, ils vont là où il y a de la place dans les voitures, prennent place à l'intérieur d'un véhicule. Et là, il y a des comédiens, ils sont actuellement un ou deux dans chaque voiture. Les comédiens leur font partager un moment de leur intimité, enfin de l'intimité de ces auteurs, à l'intérieur du véhicule. Ça dure à peu près 10 minutes. Et puis à un moment, on comprend, alors on le comprend plus ou moins vite, qu'il faut sortir. On sort, on court vite vers un nouvel univers et d'autres spectateurs prennent place dans la voiture qui s'est libérée. Donc les comédiens sont pendant 2 heures, 4 heures en jeu sur une boucle comme ça. Les mots tournent en boucle, le temps tourne en rond dans les voitures.
Alors, l'originalité de ce spectacle, c'est à la fois de se situer en dehors de l'espace classique d'un théâtre, mais ça, il y a beaucoup de gens qui le font. Mais en général, les spectacles qui se situent en dehors des théâtres sont des spectacles qui aussi se passent très bien de texte aujourd'hui ou en rapport au texte différent. Or, vous avez voulu garder un rapport au texte, mais dans un dispositif qui s'apparente davantage à ces formes de théâtre qui n'ont pas besoin de texte.
Mais oui, en fait, l'embouteillage est né dans le train. Je revenais des Déferlantes de Fécamp, qui est un festival de théâtre hors les murs. Et je venais de jouer là-bas un monologue de Patrick Herman, The Great Disaster, et je me disais, mais qu'est-ce que j'aimerais faire maintenant pour un festival comme ça, pour cette scène nationale-là, pour Annick Bardol, qui est la directrice de cette scène nationale. Qu'est-ce que je sais faire, sur quoi j'aime travailler, et où est ma recherche? Ma recherche est tournée vers les spectateurs et vers le rapport de la scène et de la salle depuis que je fais du théâtre. Donc c'était un petit peu mêlé tout ça. C'était aussi, je revenais de travailler, ça faisait 2 mois que je travaillais sur un monologue. Donc c'était aussi le plaisir de retrouver une équipe, puisqu'il y a 17 comédiens, et une équipe aussi avec les auteurs qui font aussi partie de l'aventure. Ils sont 25. Donc en fait, c'était mettre un petit peu tous ces éléments-là dans une. Et puis travailler sur l'écriture contemporaine et pouvoir donner ailleurs que dans une salle. Donner à entendre des auteurs, donner à entendre cette écriture-là. Donc c'est vrai que dans le train est arrivée la voiture, parce que dans le train on avance en restant sur place. Enfin, puis les idées s'avancent bien dans le train. Donc c'était.
Alors, il y a 25 auteurs associés à ce projet. Il y en a un, enfin, il y en a même deux parmi nous. Yves Nilly, vous avez écrit un de ces textes. C'est donc une commande. Vous l'avez pris comme une commande ou c'est un texte que vous aviez déjà.
Non, il n'était pas déjà. C'était vraiment une commande. Oui. Oui, Anne-Laure, ça s'est fait même dans l'urgence un peu. Anne-Laure, on a commencé à parler du projet et puis ça s'est accéléré puisqu'il a fallu présenter une espèce de première mouture, disons, à la ferme du Buisson. C'était il y a.
C'était en février 2000.
En février 2000, voilà. Donc en plus, ça s'est fait très vite pour dire déjà, on va mettre comme ça. Mais le projet existait déjà. Moi, ce qui m'a plu dès le départ, c'était la rigueur et l'extrême précision en fait du projet d'Anne-Laure, quasi mathématique comme ça dans son fonctionnement, et en même temps l'énorme liberté. Alors parce que c'est vrai que les contraintes là d'écriture comme ça sont en fait d'énormes libertés, puisque ça donne aux écrivains, aux auteurs, la possibilité dès le départ de jouer évidemment avec les formes. Énormément de possibilités dans un espace qui est assez banal de la voiture, un espace en même temps très intime, moderne, où on recrée ou non aussi un système saine et sale, puisque les comédiens sont quand même là, est-ce qu'ils vont être devant, est-ce qu'ils vont être derrière, le public qui y va être. À chaque fois, il va changer. Ce sont un peu comme des modules, comme différentes pièces qui vont s'imbriquer, qui vont entrer en résonance les unes et les autres, évidemment, puisqu'on est dans le même lieu, mais on a quand même des écritures très, très, très différentes. Donc tout ça, il y a un jeu qui se met en place et qui sera à chaque fois différent. La possibilité, la chance pour l'auteur, aussi l'écrivain, de se dire que le spectacle est à géométrie variable, qu'il ne sera jamais, que sa forme ne sera jamais la même aussi, donc, puisqu'on évolue, rien qu'au nombre de voitures, rien que ce qui se passe aussi à l'extérieur, le public différent aussi. Donc moi, c'était la possibilité formidable de jouer avec à la fois l'immobilité et puis en fait un extrême potentiel de mouvement. Puisqu'en fait, pour moi, c'est vraiment du théâtre en mouvement. C'est le jeu avec les formes du théâtre, de se dire, tiens, de s'interroger sur, et notamment par le biais de l'écriture contemporaine, de se dire, tiens, qu'est-ce qu'il pourrait être aussi ce théâtre en mouvement, où on s'interroge à nouveau sur la place du spectateur, la place du texte. C'était bien de parler des possibilités d'absence du texte, quand on parle en effet de certaines sortes de spectacles, ou alors où on a recours à des montages de texte. Et là, pas du tout. C'était vraiment, après ne pas toucher aux textes tels qu'ils étaient écrits, de vraiment les projeter. Bon, c'était, non, pour un écrivain, c'est passionnant comme projet.
Ben, le sachez, vous aussi, vous avez participé comme auteur à cette aventure, mais je veux plutôt vous donner la parole sur un autre aspect de votre travail lié à ce spectacle, puisque vous êtes aussi une des comédiennes présentes dans une de ces voitures. Dans un entretien, Anne-Laure Liégeois disait que elle voulait que les comédiens dans ce projet jouent comme au cinéma, pas comme au théâtre. Comment
Oui,
voyez-vous?
c'est vrai et c'est pas vrai. Enfin, et bien sûr, la proximité fait qu'on pourrait croire qu'on est au cinéma, mais moi j'ai aussi l'impression qu'on joue comme sur une scène de théâtre, c'est-à-dire qu'un mouvement dans une voiture, si on penche un petit peu la tête, je me suis rendu compte que ça correspondait parfois à 6 pas sur une scène de théâtre, qu'il faut être très 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 précis. Moi j'ai l'impression que c'est aussi, on fait appel beaucoup aux techniques théâtrales, au niveau de l'articulation, au niveau de la respiration, au niveau du phrasé des textes. Et la caméra, c'est pas quand même, on n'a pas une caméra, on a des spectateurs vivants. Donc on joue avec eux et on rebondit avec une très grande précision sur ce qu'ils nous envoient. Et moi je ressens exactement les mêmes choses que sur une scène de théâtre. Exactement. C'est très étonnant.
Vous avez les spectateurs
Dans le
dans le
dos
dos?
ou à côté, ou selon qu'on est derrière, devant, il y a toutes les possibilités. Si on se tourne vers les spectateurs, parfois on est comme sur un plateau, dos au public, parfois on s'ouvre, on est en ouverture, on est très près, on s'éloigne d'eux, donc on est en gros plan, on projette un peu plus. Mais c'est sûr que ce qui est étonnant, c'est qu'on les a dans les yeux, parfois on les gêne, parfois ils partent très vite avec nous dans le même voyage. On est en fonction aussi de. C'est ce qu'ils reçoivent qui nous relance dans l'envie, ce qui fait qu'on peut répéter 16 fois un texte, mais c'est jamais la même chose. Et c'est très étonnant, c'est qu'on y a, le texte ne s'essouffle pas. Moi, j'avais peur de tout d'un coup me dire on va être dans une mécanique, et on ne l'est jamais. Il y a un moment, vers le 7e ou 8e, où j'ai eu pendant 2 phrases, j'ai l'impression de planer un peu. Je suis pas une adepte de la cocaïne et de ça, mais je me dis, tiens, où t'es, t'en es à quelle fois le premier, qui sont les spectateurs derrière, c'est ceux de la 2e fois ou de la 12e fois? Et puis, très vite, il y a une lucidité qui revient. Mais j'ai eu ça quand même, c'est
Vous jouez
amusant.
combien de fois de suite en boucle?
16, 16, 17, 18 fois, parfois, ou 15, ça dépend.
Merci à tous. Embouteillage, c'est jusqu'au 19 juillet, ici au Festival d'Avignon. Je voulais signaler à la fin de cette émission, de cette de première partie, que France Culture organise une journée des écritures contemporaines qui se tient dimanche 15 juillet, de 11h à 18h, à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon. Il y aura 3 tables rondes autour de cette question du statut de l'auteur. On pourra notamment y entendre Xavier Duringer, Jacques Lassalle, Jean-Michel Ribes, Véronique Holmy, et puis aussi des mises en espace organisées par Michel Didim. L'ensemble des tables rondes sera animé par Julie Clarini. Et puis cette journée des écritures contemporaines deviendra aussi une radio libre le samedi 26 sur France Culture. Lundi, c'est Francesca Isidori que vous retrouverez pour ses conférences de presse, ses premières parties de la suite dans les idées. Merci à tous.